Une déclaration de la foi. Je veux juste vous avertir que si vous entendez Tania parler, c'est pas parce qu'elle écoute pas, c'est parce qu'elle traduit pour ses parents ce matin. Donc, c'est pas ça. Donc, soyez pas distraits par cela. Mais vous savez que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas un livre normal. C'est vraiment Dieu qui nous parle. Et on aime faire cette déclaration parce qu'on croit que ce que la Bible dit est vrai. On croit que ce qu'on dit avec la bouche et croit de notre cœur s'accomplira. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je serai jamais plus pareil. Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Dieu au nom de Jésus. Amen. Peut-être vous posez la question, qu'est-ce que ça donne de dire cela? Mais laisse-moi, est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Elle nous enseigne que ce qu'on confesse avec la bouche et ce qu'on croit de notre cœur s'accomplira. Amen. Il est important. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, faire ces genres de déclarations est important. Mais ce matin, on va continuer notre série, 40 jours, un seul but. On a commencé cette campagne avec la question, pourquoi suis-je sur terre? Et on a répondu à la question. Dieu nous a créés pour une raison. Nous avons tous une raison d'être. Et nous, on n'est pas ici par hasard. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Et on a vu, premièrement, que nous sommes créés pour adorer Dieu, que nous sommes appelés à être les adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Ça fait partie de notre raison d'être. Après ça, on a vu que nous sommes façonnés pour la famille de Dieu et que Dieu nous appelle à la communion, pas juste avec lui, mais les uns avec les autres. On ne peut pas faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse sur la terre seul. On fait partie d'un corps. Comme une main ne peut rien faire sans le bras, ou comme le bras ne peut pas faire grande chose sans la main, on a besoin les uns des autres. Et c'est pourquoi on a besoin d'être dans une église locale où on peut grandir, prendre soin les uns des autres et grandir ensemble. On a vu aussi que nous sommes créés pour devenir comme Jésus-Christ. Et ça s'appelle le discipulat ou la croissance spirituelle. Dieu nous appelle à grandir, à devenir mature. Un jour, on va tous être parfaitement, parfaitement conforme à l'image de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et on a vu qu'il y a quatre disciplines qu'il faut avoir. Il faut avoir un temps quotidien dans la parole, un temps dans la prière. Il faut être obéissant et il faut aussi marcher dans l'amour pour devenir comme Jésus-Christ. On a vu aussi que nous sommes tous formés pour servir dans un ministère. On a vu cela la semaine passée avec Pasteur John, Madame de la France. On a fait le message ensemble que personne n'est sauvé pour s'asseoir, mais nous sommes tous sauvés pour servir, n'est-ce pas? On a un rôle à jouer. Vous avez un ministère à exercer au sein de l'Église locale que personne d'autre pourrait faire aussi bien que vous pourrez faire. Amen? Et j'espère bien que vous êtes plus motivés que jamais de découvrir, développer et déployer le don que Dieu a investi dans votre vie. Mais ce matin, on va continuer, on va voir notre objectif que Dieu a déterminé pour son Église. Et celui-là est différent un peu. Il y a quelque chose de spécial concernant cet objectif. Pourquoi? Parce que les autres choses qu'on a vues, les quatre autres objectifs qu'on a étudiés, sont des choses qu'on va faire pour toute éternité. Vous savez? Hein? Pour toute éternité, on va pouvoir adorer Dieu. Pour toute éternité, on sera ensemble. Pour toute éternité, on sera comme Jésus-Christ. Et je crois qu'on va continuer à grandir parce que Dieu est grand, n'est-ce pas? Pour toute éternité, je suis convaincu qu'on va rendre service les uns aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Au ciel, on ne va pas juste flotter sur les nuages, vous savez. Heureusement, je pense que ça serait pas mal plate, flotter sur les nuages pour une éternité. Mais on va rendre service, on va servir Dieu, on va servir les autres. Mais il y a une chose qu'on va faire et qu'on est supposé de faire ici sur la terre, que nous n'allons jamais faire au ciel. Et vous savez c'est quoi? C'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et d'amener les hommes et les femmes à une connaissance de Jésus pour qu'ils soient sauvés de leur péché. On sait qu'on ne fera pas ça au ciel parce qu'on ne peut pas être au ciel à moins d'être déjà sauvé. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que vraiment, quand on parle de qu'est-ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est un objectif qui est seulement et uniquement pour nous à accomplir ici sur la terre. Amen. Amen. Et c'est une chose qui est importante. On va voir tantôt, et on va même entendre les témoignages de au moins 3 personnes ce matin de notre église qui vont partager des choses importantes avec nous. Mais on va voir que même si tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste, tout le monde est appelé à évangéliser. Et on va parler de cela ce matin. Mais pour commencer, on va lire notre texte clé, Marc chapitre 16, les paroles de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, celui qui est mort pour nous, celui qui a pris notre place, celui qui a souffert à cause de mes péchés, et celui qui est ressuscité et qui vit éternellement. Jésus a dit ceci à ses disciples. Il a dit en verset 15 de Marc 16, puis il leur dit, « Allez par tout le monde. » Souligne cette phrase, « tout le monde. » Tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Soulignez cette phrase, toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. N'est-ce pas merveilleux? Qu'on peut travailler pas pour Dieu, mais on peut travailler avec Dieu. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Hein? Travailler pour quelqu'un ou travailler avec quelqu'un, c'est toute une différence. Mais là, la parole de Dieu dit que le Seigneur travaillait avec eux et qu'est-ce qu'il faisait? Et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Donc là, on voit que Dieu nous a donné un grand mandat. C'est pas une bonne suggestion. C'est pas une bonne idée. Jésus n'a pas dit que si tu as assez de temps, après avoir fini le travail, après avoir joué au golf, après avoir lu ton journal, après avoir pris tant de vacances, après avoir fait telle et telle chose, si ça vous tente, si vous avez le goût, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Non, c'est notre mandat, en fait c'est notre raison d'être ici sur la Terre, n'est-ce pas? On est là sur la planète Terre seulement et uniquement parce qu'il y a encore des milliards d'hommes et de femmes, 6 milliards de personnes qui habitent sur la planète Terre, et plus que la moitié n'ont jamais entendu parler de Jésus. Incroyable, mais vrai. Vous savez, il y a des places. Et même, je peux vous donner un exemple. Vous savez qu'on a ici à Drummondville une usine qui appartient aux Chinois, n'est-ce pas? Mais moi, je m'en souviens, j'ai rencontré une personne qui travaille à cette usine, mais qui parle anglais. Il ne parlait pas encore beaucoup de français, hein? Mais je l'ai rencontré une fois et j'ai commencé à parler avec lui. Et j'ai commencé à poser des questions s'il connaissait Dieu, s'il a entendu parler de Jésus. Et il m'a regardé, c'est comme, Jésus, qui ça? Il n'avait. Et j'essayais d'expliquer Dieu, Jésus, et c'est comme, il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Intéressant, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire qu'il y a la moitié de la population de la planète Terre n'a jamais entendu parler de Jésus. Et ceux qui ont entendu parler de lui, il y a quand même le plus grand pourcentage qui savent que Jésus a existé. Ils ont un assentiment intellectuel de son existence, mais ils ne l'ont jamais rencontré personnellement. Et vous savez, savoir que Jésus existe, savoir que Jésus est même Dieu, savoir qu'il est ressuscité d'entre les morts, ce n'est pas assez pour avoir la vie éternelle. Il faut accepter Jésus. L'apôtre Jacques a dit, tu crois que Dieu est vrai, mais c'est pas une grande chose, hein? Je paraphrase. Le diable lui-même, il croit en Dieu et il tremble. Vous savez que le diable croit en Dieu, Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ce n'est pas une question de croire en Dieu, c'est une question de connaître Dieu, n'est-ce pas? Et le monde a besoin de connaître Jésus. Et la réalité, c'est que si le monde ne connaît pas Jésus, ils vont passer de cette vie à l'éternité sans avoir la vie éternelle. Allez, prêche la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croient pas, ils vont être condamnés. Ça, c'est une chose qu'on n'aime pas trop en parler, de la réalité de l'enfer, mais savez-vous que l'enfer, c'est une véritable place? Et la réalité, c'est que Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Il n'a jamais voulu qu'un homme ou une femme ou un membre de la race humaine entre à l'enfer. C'était jamais dans son plan. Mais parce que Satan a réussi à séduire Adam et Ève, parce qu'Adam et Ève ont cédé à la tentation, ils ont désobéi à Dieu, ils sont devenus les prisonniers de Satan, et maintenant ils sont devenus même les propriétés de Satan. Chaque membre de la race humaine, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et quand Dieu va jeter Satan dans les temps de feu, tous ceux qui lui appartiennent vont aller avec. Et c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'ils aillent en enfer, et c'est pourquoi il a payé le prix ultime. Il a donné son propre Fils. Imaginez, vous qui êtes parents, donnez votre Fils pour le pire des pécheurs. Laissez votre fils ou votre fille être crucifié et battu pour sauver le pire des criminels. Imaginez, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé son Fils qui était parfait pour nous sauver. Et on a la joie, l'honneur et la responsabilité de prêcher cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort, Jésus est ressuscité et tous ceux qui invoquent son nom seront sauvés. Amen. Donc, mon cinquième objectif est de partager la bonne nouvelle. Tout le monde dit bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Dieu ne m'a pas appelé à prêcher à tout le monde en disant, toi, tu es un sale pécheur, hein? Je suis tellement content que je ne suis pas comme toi. Moi, je suis un chrétien, je suis quelqu'un. Toi, tu sale de type. Non, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, mais que Dieu a envoyé son Fils et il nous a offert la justice comme un don gratuit. Et on peut avoir le pardon de nos péchés gratuitement. Et on peut être né de nouveau et recevoir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? En fait, il y a un verset que j'ai mis dans vos notes, hein, qui est vraiment important. Acte 1, 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu veut qu'on soit les témoins et qu'on annonce cette bonne nouvelle. Où? À Jérusalem, Judée, et même jusqu'aux extrémités de la terre. La Jérusalem, ça représente les gens qui me sont les plus proches. Et les personnes de votre parenté, les personnes dans votre entourage que vous fréquentez, que vous voyez au travail, les voisins à côté de vous, ça c'est votre Jérusalem. Et aussi les gens proches mais différents de moi. Ça c'est la Judée. Vous savez que les gens de la Samarie, c'était des personnes méprisées par les Juifs à l'époque. C'était des personnes que, il ne faut pas avoir trop de contact avec eux, ils sont différents. Savez-vous qu'il y a des personnes, même à Drummondville, qui sont différentes que nous? Qui ont un arrière-plan différent, une culture différente, mais Dieu veut qu'on les atteigne avec l'Évangile aussi, n'est-ce pas? Et même, il a dit, jusqu'aux extrémités de la terre, le monde entier a le droit d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai eu le bonheur et la joie d'entendre Jésus et de le recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai reçu gratuitement, c'est à moi de donner gratuitement. N'est-ce pas? Imaginez si quelqu'un, il parle beaucoup de toutes sortes des maladies, hein, le sida ou même la grippe. Vous savez, imaginez si quelqu'un a découvert le remède pour cela. Imaginez le pire des pandémies qui pourraient se produire, que ce soit le sida, n'importe quelle maladie, mais quelqu'un est capable de découvrir une piqûre qui va remédier cela une fois pour toutes. Il prend la piqûre lui-même et dit, « Ah, ben là, au moins, je suis en toute sécurité. » Mais il laisse mourir tous les autres autour de lui. Ça serait criminel, n'est-ce pas? Combien de nous avons reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais nous avons des fois peur et honte de partager avec les autres? Aujourd'hui, ça va changer. Amen? On voit que nous avons une mission à remplir. Acte 20, 24, l'apôtre Paul a dit, « Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. » et d'achever la tâche qui m'a confié le Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Savez-vous que Jésus-Christ nous a confié la tâche d'annoncer la bonne nouvelle? Et Dieu n'a pas un plan B? Imaginez, Dieu a vu que la race humaine était perdue. Et la seule façon de sauver la race humaine, c'était d'envoyer son Fils unique. Et son Fils est devenu chair. Jésus est devenu un homme. Il a souffert, il était battu, il était séparé d'avec le Père à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est descendu même à l'intérieur de la terre. Jésus a souffert des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer, mais finalement ressuscité. Mais Dieu a décidé dans sa sagesse, au lieu d'aller laisser Jésus se manifester, je ne sais pas pourquoi, mais il a choisi de confier le message de la bonne nouvelle à son Église. Maintenant, voici notre devoir de prendre le message de Jésus-Christ et de l'annoncer à chaque membre de la race humaine. Et si on ne le fait pas, personne d'autre peut le faire. Même les anges ne peuvent pas prêcher, vous savez. On sait parce que quand l'apôtre Pierre était sur le toit et priait, il a eu une vision. N'est-ce pas? Et Dieu disait de ne pas appeler ceux qui impurs ceux que j'ai dit impurs. Et ça parlait des non-juifs. Et il y avait un certain homme qui s'appelait Corné, un Italien, un soldat italien qui craignait Dieu, mais qui n'était pas né de nouveau. Mais un jour, un ange lui est apparu. Mais l'ange n'a pas prêché l'Évangile. L'ange a dit, va, envoie à Joppe. Et cherche un homme qui s'appelle Pierre. Lui va venir. Lui va vous expliquer le salut. Savez-vous que les anges ne peuvent pas faire notre job pour nous? Nous sommes les ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et si on ne fait pas notre job, personne d'autre peut le faire. Amen? Regarde ton voisin et dis, tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça appartient à qui le ministère de la réconciliation? À chaque membre du corps de Christ. Tout le monde dit, je suis ministre de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a, il ne va pas le faire, il nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Le message que nous avons à prêcher, c'est que tous les péchés de tous les pécheurs sont déjà payés. Et que les péchés du monde entier sont déjà pardonnés. Le compte est déjà réglé. Mais ils ont tout simplement besoin de recevoir le règlement du compte. Ou ils peuvent essayer de régler eux-mêmes. Et ça ne marcherait jamais. Imaginez si vous avez une dette de 1 000 $. Et vous recevez une lettre en disant que, hey, présente-toi à la caisse à telle heure, signe un papier et on va canceller ta dette. Tu as un choix. Soit tu peux te présenter à la caisse à telle heure, signer pour dire oui, je reçois. Quelqu'un a fait un don, je reçois ce don, ma dette est réglée. Ou tu peux dire non, je suis capable moi-même, j'ai pas besoin d'aide, je peux le faire moi-même. Vous savez que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà réglé la dette. Le prix est déjà payé. Amen. Mais c'est à nous de l'annoncer. Alléluia. Paul a dit ceci en Romains 1, 14 à 16. C'est un de mes versets préférés sur l'évangélisation. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, Et j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. On pourrait prêcher trois heures juste sur cela. Mais Paul nous a révélé trois choses, trois attitudes. Je me dois, c'est-à-dire je suis dans l'obligation. J'ai reçu gratuitement, j'ai une dette à payer. J'ai reçu le message de la réconciliation, il faut que je partage cela avec les autres. Deuxièmement, j'ai un vif désir. C'est un privilège, une joie et un honneur de prêcher l'Évangile. Et troisièmement, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de parler de Jésus. Plusieurs fois, on a peur de parler de Jésus, n'est-ce pas? On a peur de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais laisse-moi vous dire que l'amour de Dieu va bénir cette crainte. Quand nous avons peur, c'est parce qu'on est concentré sur soi-même. Mais quand on est tellement concentré sur le monde et on se pose la question, où est-ce qu'il va passer l'éternité? Est-ce qu'il sera au ciel avec moi ou est-ce qu'il va brûler à l'enfer? Laisse-moi vous dire, quand on est motivé par cela, la crainte disparaît. Amen. Tout le monde dit ceci, je me dois, j'ai un vif désir, je n'ai pas honte. On va le dire encore, je me dois, j'ai un vif désir, je n'ai pas honte. J'aimerais que chaque membre de l'Église vive avec cette attitude tous les jours de leur vie. Je me dois, j'ai un vif désir, je n'ai pas honte de l'Évangile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? L'Église a reçu un mandat de prêcher l'Évangile à chaque création, à chaque nation, à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, je veux que vous quittiez aujourd'hui avec ces trois choses dans votre cœur, dans votre tête, mais surtout dans vos pieds. Je veux que vous mettez cela en action. Il y a quelque chose que tout le monde peut faire pour évangéliser. Tout le monde, sans exception. Et la première chose que je dois faire, que vous devrez faire, c'est que, numéro un, je dois prier. Moi, je crois que la prière est efficace. Et vous? Si on prie pour les gens vont être sauvés. Il ne faut pas juste prier, « Oh, Seigneur, sauve telle et telle personne! » Non, il faut prier avec sagesse et selon la parole de Dieu. Quand on prie pour ce monde perdu, il y a trois choses qu'on peut faire. Premièrement, on peut prier et prendre autorité sur Satan qui a aveuglé les yeux. Parce que la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Christ. Première chose qu'on fait, on prie, « Seigneur, ouvre les yeux de mon voisin. Seigneur, enlève le voile au nom de Jésus. Satan, on prend autorité sur toi et je dis, enlève le voile de leurs yeux, au nom de Jésus, pour qu'ils puissent voir clair. » Moi, j'ai une conviction. Si on pourrait avoir sur l'écran ce matin une émission en direct du ciel, et on pourrait voir qu'est-ce qui se passe au ciel, la beauté, la joie, tout le monde qui célèbre dans la présence de Dieu, tout le monde voudrait y aller, n'est-ce pas? Et si on pourrait, après cela, avoir en direct de l'enfer, et voir la souffrance, et voir tout ce qui se passe, personne voudrait y aller. Et je suis convaincu que si quelqu'un choisit d'aller à l'enfer aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans l'ignorance ou ses yeux sont aveuglés. Et on peut prier, enlève les voiles, Seigneur. On peut prier une autre chose, comme Jésus a dit ici. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On peut prier, Seigneur, ouvre les yeux, mais Seigneur, maintenant que les yeux sont ouverts, envoie une personne qui va croiser son chemin, qui peut annoncer la bonne nouvelle, qui peut planter la semence, qui peut arroser la semence. Quelqu'un a besoin de parler. Seigneur, envoie un ouvrier. Vous savez que s'il n'y a pas d'ouvrier, les gens ne peuvent pas être sauvés. Jésus a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Hein? Une chose que j'ai fait quand j'avais 17 ans, je m'en souviens, j'ai raconté l'histoire plusieurs fois, mais je vais le dire encore, au cas où vous ne l'avez jamais entendu. Je priais ceci une fois pour des membres de ma parenté. Parce que je sais que souvent, on n'est pas capable de témoigner à nos propres parentés avec trop d'efficacité. Ils nous connaissent trop bien, n'est-ce pas? Moi, je priais dans ma chambre, et je pense que je même dans ma garde-robe, et je priais, Seigneur, envoie des personnes qui vont croiser le chemin de mon frère et de mon père. Et je priais avec ardeur pour ces personnes. Envoie les ouvriers. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de prier une autre chose. Et je dis, Seigneur, s'il y a quelqu'un d'autre, une mère, un père ou un frère qui prie pour un membre de leur parenté, ou quelqu'un qui prie pour son ami, Seigneur, fais de moi la réponse à leur prière, au nom de Jésus. Il demande des ouvriers que je sois cet ouvrier, Seigneur. Vous savez quoi? Je suis allé à l'église cette soirée-là, c'était un mercredi soir, et en revenant de l'église, j'ai passé devant McDonald's, j'avais pas un petit creux, mais je savais dans mon cœur, juste un témoignage intérieur qui disait arrête. J'ai arrêté, je suis entré dans le restaurant et j'ai vu un monsieur au comptoir et je savais tout de suite, le Saint-Esprit a dit, c'est lui, je veux que tu lui parles. J'ai acheté un petit liqueur, je me suis assis à une table à côté de lui, je commençais à jaser et j'ai posé la question. Je dis, monsieur, je veux juste savoir, est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Il m'a regardé avec les yeux gros de même. Il a dit, oh, c'est drôle que tu me poses cette question parce que ça fait 3 jours que j'essaie de comprendre comment faire cela. Il sort un traité d'évangélisation de sa poche. Il a dit, quelqu'un m'a donné ça, mais il y a des choses que je ne comprends pas trop. Et là, on partageait l'évangile et je priais avec lui. On est sorti dans le stationnement de McDonald's. Il était né de nouveau chez McDo. Amen. Alléluia. Mais vous savez, sans exception, à chaque fois que je prie et je demande, Seigneur, fais de moi la réponse à la prière de quelqu'un d'autre, il exauce la prière. Lis Colossiens 4, 2 à 6 à la maison. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Et ça va vous aider. Priez. On peut intercéder aussi. On peut prier pour nous. On peut prier pour les autres. On peut prier pour les nations. On peut prier pour les missionnaires et les évangélistes qui sont en train de faire des croisades et de faire des voyages. On peut prier parce que vous savez qu'on a besoin de leur prière. On va entendre quelques témoignages d'un couple de personnes ce matin et ça va vous montrer jusqu'à quel point il est important pour nous de prier. Je sais qu'il est essentiel d'avoir la prière en arrière de nous. Deuxième chose qu'on peut faire pour évangéliser ce monde, je dois donner. Tout le monde dit « je dois donner ». Combien de vous savez que l'Évangile, la bonne nouvelle, est gratuit? Le salut est gratuit. Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme de l'eau. L'eau est gratuite, mais ça prend des sous pour la pomper, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour ce qui concerne l'Évangile. La prédication de l'Évangile et la générosité financière vont de pair. Et une chose que j'ai découvert, plus on est convaincu de cela, plus on est motivé pour voir le monde sauvé et d'envoyer les missionnaires et de faire promulguer l'évangile de Jésus-Christ, plus on investit dans ça, plus on est béni en retour. Je vous assure que si il y a des personnes qui vont investir dans les rires, et ça c'est une bonne chose, aucun problème avec ça. Il y a des personnes qui vont investir dans la bourse, ils vont faire toutes sortes de choses. Mais savez-vous, le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est d'investir dans l'éternité. D'aider quelqu'un qui a un appel d'aller en Outre-mer et de prêcher à un de ces personnes qui font partie de la moitié de la population qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Vous savez, c'est la seule raison que Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il attend le précieux fruit de la terre. Amen. Et on fait du progrès. Dans 10 ans même, on a réduit par la moitié le nombre de groupes ethniques qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Juste dans 10 ans. Et moi, je suis convaincu qu'avec la technologie et avec toutes les choses que nous avons à notre disposition, on serait capable d'évangéliser toute la planète Terre dans très peu de temps si tout le monde ferait sa part. Et on a besoin de le faire. Et on peut prier, mais on peut aussi donner. Comme un missionnaire célébré a dit une fois, soit il faut aller, soit il faut envoyer un substitut. Amen. Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul a dit quelque chose à l'église des Philippiens, parce qu'eux autres, ils ont soutenu l'apôtre Paul dans ses œuvres missionnaires. Vous savez bien, chers Philippiens, que dans les premiers temps de mon activité missionnaire, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a participé à mon entretien. Aucune ne s'est associée avec moi en m'ouvrant un compte de crédit et de débit. Intéressant, n'est-ce pas? Vous seuls y avez pensé. Dès mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, ce sont les fruits que de cette manière vous offrez à Dieu et qui sont portés à votre actif. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, Philippiens, vous êtes la seule église qui étaient des partenaires financiers avec moi pendant mes œuvres missionnaires. Vous avez ouvert un compte de donner et de recevoir. Mais c'est pas juste le don que je recherche. Je sais qu'à chaque fois que je prêche l'Évangile, à chaque fois que je vois un homme guéri, à chaque fois qu'une église est plantée, que ça va à votre compte aussi. Est-ce que vous comprenez, dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël allaient au combat, il y avait un butin souvent qui était gagné, n'est-ce pas? Et ils ont saisi le butin de l'ennemi. Mais il y avait toujours un groupe de personnes qui restaient en arrière et qui gardaient les bagages, n'est-ce pas? Et qui prenaient soin des bagages. Et la Bible dit que ceux qui sont restés avec le bagage avaient le même droit de partager le butin que ceux qui sont allés au front pour combattre. Et savez-vous qu'il n'y a aucune différence? Moi, je ne suis pas appelé à aller en Outre-mer. Appelé à aller en Outre-mer, vous êtes appelé à envoyer quelqu'un d'autre. Amen. Et ceux qui vont aller vont avoir une récompense. Mais ceux qui restent et qui donnent pour qu'ils puissent aller vont avoir une récompense aussi. Amen. Soyez pas nerveux, hein. Je vois, il y a certaines personnes des fois et ça devient un peu nerveux quand on parle de donner, mais savez-vous, une fois pour toutes, je veux que ça soit brisé. Vous n'avez pas encore vécu si vous n'avez jamais découvert la joie de donner pour les œuvres de Dieu. Vous ne savez pas c'est quoi avoir la vie avant d'avoir semé les bonnes semences dans la bonne terre. Vous ne savez pas c'est quoi la joie de vivre avant d'avoir aidé quelqu'un d'autre à trouver l'éternité. Amen? C'est merveilleux. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on fait. Mais regarde bien Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en verset 17, « Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, ce sont les fruits que je, à cette manière, vous offrez à Dieu et qui sont portés à votre actif. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il me faut et même de superflu. Depuis, l'Épaphrodite m'a remis tous vos dons. Je suis comblé, je vis dans l'abondance. Vos présents étaient pour moi le doux parfum d'une offrande agréable à Dieu. D'ailleurs, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. » Verset 19. D'ailleurs, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens vont citer ce verset Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais ça marche seulement et uniquement pour ceux qui ont ouvert un compte. Ceux qui ont commencé à faire des dépôts et ceux qui ont aidé les missions, ceux qui ont aidé à faire avancer l'Évangile de Jésus-Christ. Ceux qui ont investi dans le royaume de Dieu, ceux qui s'occupent des affaires du Père, et la plus grosse affaire du Père, c'est l'évangélisation de cette planète, n'est-ce pas? Si on s'occupe de ses affaires, il va s'occuper de nos affaires. Pourquoi? Parce qu'il sait. Hein? Si je donne 100$ à elle, et elle sème 100 $. Si Dieu donne 100 $ à Céline ou ici à Nicole, elle reçoit 100 $. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais, hein? Ah, je ne m'attendais pas à ça. Quelqu'un fait un don, 100 $. Et elle dit, bon, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais semer ça dans le royaume de Dieu. Je dis, hey, wow, je vois quelqu'un qui est fidèle. Je vois quelqu'un qui a un cœur pour donner. Je vais lui en donner plus. Hein? Puis la prochaine fois, ça peut être 200, 300. On ne sait jamais. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Moi, je connais des personnes, je connais des hommes d'affaires qui ont commencé avec presque rien, mais parce qu'ils aimaient tellement l'œuvre de Dieu, ils se sont engagés à donner et donner pour l'œuvre de Dieu, que, laisse-moi vous dire, ils sont rendus millionnaires aujourd'hui. Et ils donnent des milliers de dollars, 30 000 US par mois juste pour les missions mondiales. C'est quelque chose, hein? Il y a un pasteur de Toronto. Vous avez peut-être entendu parler du People's Church à Toronto. C'était une église qui avait beaucoup, Émilien connaît des personnes de cette église, beaucoup, beaucoup pour les missions. Mais lui, une fois, il a eu une révélation que les gens devraient utiliser leur foi pour faire confiance à Dieu pour les finances, pour les missions. Et c'est-à-dire qu'ils ont même demandé aux gens de faire des promesses de la foi. On va donner tant cette année pour les missions. Ce n'est pas une chose, on ne peut pas voir d'où ça va venir, mais on va juste faire confiance. Seigneur, j'aimerais donner 1000 $ aux missions cette année, ou 100 $, ou 50 $. Mais Seigneur, je ne sais pas d'où ça va venir, mais tu vas pourvoir au nom de Jésus. Et laisse-moi te dire, à chaque fois que tu reçois quelque chose, une surprise, un cadeau, tu dis, « Aha! Seigneur, tu peux voir. J'ai demandé, Seigneur, que tu me donnes la semence pour semer. » Et à chaque fois que tu reçois, tu dis, « Ah, je l'ai. Je parle de quelque chose d'important ce matin. Je vous dis que ça va vous donner une telle joie. Je sais que cette Église est destinée à faire cela. Cette Église est destinée à donner des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour les missions mondiales. On a une œuvre à faire dans la francophonie. Amen. Et des fois, les personnes sont nerveuses. « Ouh, il veut mon argent. » Non, non. Ça se peut que vous avez terminé comme étant vraiment plus riche que vous n'aurez jamais imaginé. Parce que vous avez donné plus que vous n'avez jamais imaginé. Dieu ne veut pas vous enlever de quoi que ce soit. Il veut vous donner de plus, en plus, en plus, en plus, pour que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Amen. Je dois prier, je dois donner, et finalement, je dois aller moi-même. Ce n'est pas juste assez de prier. Ce n'est pas assez de donner. Vous savez, je crois que chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer dans l'évangélisation. Je dois aller moi-même. Ésaïe 6, 8 dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Me voici, envoie-moi. Si on entendrait la voix du Seigneur ce matin, « Qui enverrai-je? » Il y a des hommes et des femmes perdus à Drummondville. Des personnes qui sont prêtes à se suicider, des personnes désespérées à Drummondville. Qui enverrai-je? C'est quoi votre réponse? Vous regardez autour de vous, je sais pas, qui est-ce qu'il va envoyer? J'ai aucune idée, là. Hein? Je suis vraiment embêté. Seigneur, j'ai aucune idée. Non, on dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Qui enverrai-je? À Maroc. Pour prêcher l'Évangile. Qui enverrai-je en Tunisie, en Algérie? Qui enverrai-je au Congo? Qui enverrai-je en Mali? Qui enverrai-je à Togo? Qui enverrai-je à Guyane française? Qui enverrai-je en Chine? Amen. J'ai aucune idée, Seigneur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Mais fais pas l'erreur, comme beaucoup font. Seigneur, envoie-moi en Afrique, envoie-moi en Chine, envoie-moi ici et là. Et puis le Seigneur dit, OK, bon, premièrement, je veux que tu ailles à côté, la porte à côté et témoigne à ton voisin. Amène un gâteau, assieds-toi avec lui, parle-lui de moi. Oh, mais là, Seigneur, moi j'ai un appel pour la Chine. Je ne peux pas parler avec lui. Hein? Facile des fois de penser qu'on va faire de grandes choses en Outre-mer. Mais il y a une chose intéressante. Il n'y a rien de magique quand on traverse l'Atlantique ou la Pacifique. Il n'y a rien de magique qui nous transforme. Vous êtes ce que vous êtes. Et si vous êtes un témoin en Amérique du Nord, au Québec, à Drummondville, vous serez un bon témoin en Chine ou en Afrique. N'est-ce pas? Alléluia. Mais on a besoin d'aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller? Plusieurs choses. Et on va parler de ça et puis je vais inviter des personnes à venir donner des témoignages de comment le Seigneur les a envoyés. Vous ne voulez pas manquer ça parce qu'on va avoir trois personnes de notre église qui vont parler des choses intéressantes. Mais vous savez que quand on parle de l'évangélisation, je vois dans mon cœur au moins trois ou quatre volets d'évangélisation. Premièrement, je crois que chaque chrétien dans cette église devrait être impliqué dans ce qu'on appelle l'évangélisation personnelle. C'est-à-dire qu'à tous les jours, on est disponible. On dit, Seigneur, envoie-moi aujourd'hui. Ouvre pour moi une porte. Donne-moi une occasion favorable de prêcher ou de semer une semence. Pas besoin de frapper des personnes, taper des personnes avec ta Bible. Pas besoin d'aller au coin de rue et de crier à toute tête. Vous avez une personnalité différente que ma personnalité, différent que la personnalité d'Alice ou d'autres personnes. Dieu veut se servir de votre personnalité qui est unique pour atteindre les pécheurs uniques. Il y a des personnes que moi je peux toucher que vous ne serez jamais capable de toucher, mais il y a des personnes que vous êtes capable de toucher qu'ils n'écouteraient jamais un gars comme moi. On a besoin de chaque membre qui va évangéliser sur une base régulière. 24 heures sur 24, on est disponible. Envoie-moi aujourd'hui, Seigneur, évangélisation personnelle. Amen. Donc, il y a un autre volet d'évangélisation. Une autre chose qu'on peut faire, c'est-à-dire que collectivement, on peut faire des choses. On peut évangéliser en équipe. Et on a une équipe d'évangélisation dans cette église.
et Caroline Sorrentino est en charge de cela. Et ils ont des projets, ils ont déjà fait des choses, mais il y a beaucoup plus de choses qu'ils ont à cœur de faire. Et même en tant qu'Église, on va faire quelque chose en automne, que Sylvain Toujon va nous aider à organisé aussi avec le CRY. On a déjà réservé le centre culturel. On va voir un concert avec eux, une campagne d'évangélisation. On va atteindre toute cette ville avec l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est des choses qu'on peut faire collectivement en équipe ici, locale. Hein? Mais après ça, il y a aussi des personnes qui sont appelées à être évangélistes. Comme Alice a un appel sur sa vie d'être évangéliste. Et elle va aller prêcher dans les autres églises. Elle va aller faire des croisades en Outre-mer. Je sais qu'elle a à cœur de faire des choses ici. Elle va en parler tantôt. Mais il y a d'autres personnes que peut-être vous n'êtes pas appelé à être évangéliste, mais quand même vous avez un cœur pour les missions. Vous pouvez aller faire un voyage missionnaire à court terme. Passer une semaine ou deux semaines ou un mois dans un autre pays pour servir Dieu et pour ramener l'Évangile aux autres personnes. Et ça, c'est une chose qu'on veut faire de plus en plus dans notre Église. Amen. On prie pour les missions. On donne pour les missions. On va aller aussi. On prie déjà, mais on va prier davantage. On donne déjà. Actuellement, notre Église soutient à chaque mois certains ministères. On soutient le ministère de Mission Moisson. On soutient le ministère de James Rackley, qui est missionnaire auprès des Indiens ici au Québec et dans le Grand Nord du Canada. Aussi, il fait des ministères avec les orphelins au Mexique. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'il fait. On soutient le ministère de Canadian Ministries au Canada. Et à chaque fois qu'on donne nos dons là, eux autres, ils soutiennent une école biblique en Italie et au Mexique. On fait des dons à chaque mois à RCM, l'Association des Églises et Ministères de la Foi. Et eux autres, ils ont un ministère international. Des choses au Pérou, des choses en Afrique, des choses en Europe. Et on aide cela, avec cela. Amen. On a beaucoup de choses qu'on fait actuellement, mais c'est juste le petit commencement de qu'est-ce qui va venir. Mais j'aimerais que ce matin, on va demander à Caroline de venir tout de suite. Et elle va partager juste 5 minutes avec nous. Qu'est-ce que elle fait en tant que leader de... Je cherche le micro. Oui. De l'équipe d'évangélisation. Est-ce qu'on peut accueillir Caroline ce matin?
Oui, vous savez donc qu'il y a un ministère d'évangélisation ici. Il y a une équipe qui est là avec moi. Et il y a Emilia, Kéda, je voudrais juste, pendant que je parle, que ceux qui font partie de l'équipe viennent devant. Emilia, reste là. Il y a Nicole, il y a Edith.
Rapidement, venez vite.
Venez vite. Micheline, Yves, donc venez là. Ils ont été, là, ça fera un an au mois d'avril qu'on a commencé à se réunir. Ils ont été fidèles toutes les semaines. On s'est réunis pour prier. On s'est réunis pour prier pour les âmes ici à Drummondville. On a prié pour que l'Évangile soit répandu ici. On s'est réunis donc pour prier. On s'est réunis pour partager. On s'est réunis pour approfondir notre connaissance dans notre Seigneur Jésus, pour être sûr d'aller et d'annoncer avec assurance. Et dans le ministère d'évangélisation, il y a pour le moment ce que nous faisons. Il y a aussi un volet, c'est le café Oasis, qui fonctionne pour le moment tous les mardis de 11h à 14h et qui est prévu pour que nous amenions nos collègues de travail, nos amis, nos voisins ici pour venir partager la parole autour d'un café. Et après les 40 jours, il va y avoir le premier mardi du mois un café débat, c'est-à-dire qu'on aura un petit moment à partage dans la parole, et ça sera vraiment le moment d'amener les non-croyants pour pouvoir leur annoncer Jésus. Et on espère voir des miracles ici, là, à côté.
Amen.
On a aussi, l'année dernière, c'était juste le début, donc on a commencé... Mais il ne faut pas mépriser les jours des premiers commencements. On a commencé à distribuer des bouteilles d'eau sur la piste cyclable. Mm-hmm. Avez-vous soif? Parce que nous avons quelque chose à donner.
Amen.
Donc on a commencé comme ça. Les gens sont arrêtés et on a pu avoir des petits échanges de paroles comme ça. Donc on commence à se faire connaître comme ça. Et nous avons le projet de vouloir monter une équipe de mime, de théâtre et puis un peu de musique aussi pour pouvoir pour pouvoir annoncer l'Évangile d'une autre façon dans les rues. Donc pour ceux qui veulent que ça intéresse, vous viendrez nous voir après à la table derrière. Et puis un peu plus tard aussi, on a parlé tout à l'heure des ministères, des prisons, c'est sûr qu'on voudra aussi s'investir là-dedans. Donc voilà, c'est sérieux ce qu'on fait, hein, parce que quand les gens vont en enfer si on n'annonce pas Jésus. Mais je vais, comme vous allez voir sur ma table, je le montre d'abord à Pasteur Ken pour savoir si je peux vous le montrer.
Oh ben bien entendu, hein.
C'est juste pour vous inciter à venir nous voir. On voudrait, voilà, je vous veux dans l'armée de Dieu. On a besoin de vous. Toute l'église devrait être devant là, hein, concernée. Et puis en bas, c'est marqué qu'il faut aller au bureau de recrutement le plus proche. Alors le bureau de recrutement le plus proche, c'est dans la cafétéria. Donc vous pouvez venir, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. On pourra vous expliquer ce qu'on fait. Mais c'est important. Par rapport à l'évangélisation personnelle, ce que disait Pasteur Ken, il m'est venu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, nous dit la parole. Comme Dieu nous aime. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous étiez avant. C'est vrai qu'il ne faut pas regarder en arrière, il faut courir en avant. Mais de temps en temps, il faut regarder que là où on était, là où on a crié, là où on a cherché, Dieu a répondu à notre cri et il a mis un de ses enfants devant nous pour nous annoncer la bonne nouvelle. On est devenu précieux. Tout d'un coup, on s'est senti important dans le cœur de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Amen. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu dans sa royauté, dans sa magnificence, mais qui nous aime avec son cœur de père.
Amen.
On est devenu précieux, important à ses yeux. Et ça, quand on le réalise, c'est ça qui transforme notre vie. Hein? C'est la vision du monde qui change là. Et on a envie d'aller porter cette bonne nouvelle.
Amen.
Amen. Donc venez nous rejoindre.
C'est bon. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Vous savez, on va finir dans quelques minutes. On a un salon de mission et il y a des kiosques, des photos, on a des vidéos, des choses à visiter, il y a des artefacts et c'est vraiment merveilleux à les voir. Mais tout de suite, je vais demander à Rachel de venir en avant. Rachel et Eric. Eric, tu veux venir avec elle si tu veux, hein? Vous êtes une seule chère. Mais Rachel et Eric, ça fait pas tellement longtemps depuis qu'on a fait ton mariage, hein? Combien de?
3 mois et demi
qui sont mariés. Et Rachel a déjà fait un voyage missionnaire à court terme. Elle a fait 6 mois en Afrique. Elle va nous en parler de son expérience. Est-ce que le micro marche?
Vous m'entendez? Ça va bien?
Ouais.
Oui. Moi, j'ai parti 6 mois au Niger, en Afrique. C'est un des pays les plus pauvres qu'il y a. Puis, j'ai le désir d'y aller depuis que j'ai à peu près 8 ans. 8 mois.
Oui, 8 mois, ça a commencé jeune, hein?
Tu sais, il y avait mis ce désir-là dans mon cœur. Mais depuis que j'ai 8 ans, puis j'avais dit ça à mon grand-père, mais c'était comme en son temps, je ne sais pas Dieu quand il veut y aller. J'ai eu 16 ans, j'ai eu le désir, mais ça a dit non, pas tout de suite. Quand j'ai eu mes 25 ans, là, Dieu m'a mis ça à cœur. J'ai fait des démarches, ça a été rapidement. Puis, c'est ça, j'ai été avec SIM, ça veut dire servir en mission. Je suis partie 6 mois, c'était un voyage vraiment extraordinaire. J'étais souvent habillée comme ça là-bas.
Je vais juste fermer la lumière.
Je suis partie de juin à décembre 2004. Tu peux appuyer, Eric. Le Niger, oh, c'est un peu en haut du Cône. Puis c'est où que ça prend environ 12 heures aller là-bas. Puis du village, on descend à Niamey, puis c'est un petit peu, c'est dur à dire, c'est encore assez proche du Nigeria, ça prend 7 heures en autobus de se rendre là-bas. J'étais vraiment dans brousse, pas de téléphone, pas rien, là, pas d'électricité, pas souvent en tout cas. C'était un pays où c'était désertique, il faisait quand même chaud, puis il n'y a pas de pluie, comme il y a certaines périodes de pluie. Là, je fais un survol rapidement. On ne voit pas grand-chose. J'ai... On voit un petit peu du sable.
Un peu, ouais. Mais c'est pas grave. On va écouter.
Après ça, j'ai travaillé dans un hôpital comme pharmacienne. Je servais là, puis c'est moi qui gérais la pharmacie, tous les départements. Puis ça, c'est l'hôpital qu'on peut voir. Après ça, on va voir la pharmacie. L'hôpital, les lits d'hôpitaux, comment c'était. C'était quand un petit peu archaïque. Ça, c'était le personnel. Les médicaments sont en arrière avec le personnel avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec un groupe de jeunes à Dinkai, ça veut dire unité. On était environ 15 jeunes. Puis j'ai passé vraiment mon temps avec eux. Puis on a fait un CD. Là, on est en train de faire l'enregistrement. J'ai chanté avec eux dans leur langue. Je leur ai donné des cours de cuisine, des cours bibliques pour les filles. Puis il y avait un autre missionnaire qui donnait des cours bibliques pour les garçons. On s'est initiés toutes les semaines. J'ai fait de la vaccination dans les brousses. J'ai piqué des petits-enfants, puis les mamans aussi. J'ai enseigné le français à des anglophones. Honnêtement, mon anglais est vraiment pas bon. Puis justement, Dieu, c'est vraiment ta volonté. C'est comme... Puis Dieu m'a vraiment dirigé à travers ça. Fait que ça a été vraiment une bonne expérience d'humilité, puis de remettre ça vraiment Amen. À Dieu.
Amen. Merci, Seigneur. Mais, oh, tu avais autre chose à dire?
Oui, je
pense. OK, oui.
J'ai reçu des enfants. Je fais ça super vite.
Continue.
On s'est occupé des enfants des missionnaires. Fait que j'étais tout le temps beaucoup, beaucoup trop occupée. C'est un petit peu ça en bref. Mais on me voit en train de cuisiner à l'africaine.
Wow.
C'est le paysage, c'est tout. Si vous voulez voir mieux les photos, c'est les en arrière.
Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Rachel? Tu sais, chacun a sa place dans le corps de Christ. Elle travaille comme... pharmacienne ici, assistant pharmacien, elle fait des choses là en Afrique que moi je ne serais jamais capable de faire. Donner une piqûre à un enfant, oublie ça, je ne serais jamais capable. Hein? Aller prêcher, oui, hein? Ça serait du fun. Mais vous savez, quand on parle de mission, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On a même un membre de l'église, Alain Turgeon, qui habite actuellement en Haïti. Je sais que Serge et Anthony sont allés le voir le mois passé. C'était le mois passé, n'est-ce pas? Et ils ont même tous des dispositifs. Il y a un écran de télévision dans le café que vous pouvez voir toutes les images de Haïti, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais il y a toutes sortes d'occasions pour aller aider les gens qui sont dans le besoin. Des fois, c'est des groupes qui peuvent aller faire la construction, aider avec les médicaments, aider avec la parole, prêcher. Si tout le monde fait sa part, on va réaliser la vision que Jésus nous a confiée, n'est-ce pas? Et donc, je vais demander finalement à Alice Paquin de venir avec Donald. Je ne sais pas si Donald va venir aussi, mais vous savez qu'Alice, elle en appelle comme évangéliste. Il y a une chose intéressante. Tout le monde est appelé à évangéliser, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être évangéliste, n'est-ce pas? Il y a une différence. C'est comme tout le monde est appelé à prendre soin les uns des autres, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être un berger ou un pasteur. Mais Alice a vraiment un appel d'évangéliste. Ils viennent de démarrer un nouveau ministère dont ils vont parler. C'est merveilleux. Elle est ordonnée avec l'Association des Églises et Ministères de la Foi. Donald aussi vient d'avoir ses papiers avec AFCM aussi. Donc, c'est merveilleux. On est content de les avoir avec nous. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux ce matin?
Mais vous savez, le Seigneur est tellement bon qu'il a tellement de... Il aime tellement le monde, puis il a payé le prix, qu'il a trouvé plein de façons pour les rejoindre, parce qu'on a parlé d'évangélisation personnelle, on a parlé d'évangélisation d'équipe, mais aussi l'évangélisation aux nations. Et puis, c'est ça que le Seigneur met vraiment sur notre cœur à Donald et à moi, mais on n'a pas commencé là, je vous l'assure. Quand ça a été... j'ai commencé moi aussi à faire de l'évangélisation personnelle. Et puis, c'est tellement enrichissant d'aller visiter les gens, puis les contacts un à un, les conduire au Seigneur et tout ça. Et puis, lors de mon premier voyage missionnaire, parce que j'ai fait un voyage en Argentine, et puis je vous assure que quand le Seigneur me montrait que c'était ça, sa volonté, j'ai dû... non, le Seigneur est miséricordieux parce que, j'allais dire, le Seigneur ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Mais j'ai contesté. Je peux vous dire que j'étais là-bas dans ma chambre, puis c'est comme, Seigneur, je m'ai rendu jusqu'ici, puis là, écoute, ramène-moi à la maison. safe, là, comme on dit, je vais retourner à la maison, puis je te garantis que je ne bouge plus de chez nous, je ne bouge plus de mon église locale, parce que comme tout le monde, on a envie de prendre les ailes, puis aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors j'ai dit au Seigneur, ramène-moi à la maison en sécurité, puis je te promets que je vais être bien gentille, puis je vais faire tout ce que le pasteur veut, je vais rester bien tranquille, puis je vais m'impliquer beaucoup, beaucoup dans mon église locale. Mais je savais que pour moi, le Seigneur avait autre chose. Et puis, je savais qu'il n'était pas pour répondre à cette prière-là. Je suis contente. C'est pas que je ne veux pas m'impliquer dans mon église, mais je suis contente de voir que j'ai osé le faire. C'est ça que je veux dire. C'est des fois la peur, parce qu'on a parlé de peur tout à l'heure. Mais mettez-vous à la place de la personne qui vous a apporté l'Évangile. Si la personne aurait eu trop peur de vous parler,
mm-hmm.
Où est-ce que vous seriez aujourd'hui? Où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Si quelqu'un aurait dit, mais non, je ne veux pas parler à telle personne, ils vont rire de moi, j'ai trop peur, on serait encore dans les ténèbres. Mm-hmm. Alors, la peur, on peut vaincre la peur par la grâce de Dieu.
Amen.
Quand le Seigneur voit qu'on est obéissant, sa grâce est là. Alors, j'ai beaucoup aimé d'aller en équipe. J'étais avec l'équipe de John Smithwick, qui est un évangéliste reconnu de façon internationale. Et le Seigneur me dit qu'il m'emmenait là pour m'entraîner. Alors, au début, je ne comprenais pas trop ce que ça signifiait, mais comme on dit, on est obéissant, puis on va. Et le Seigneur, en m'ouvrant des portes, vous savez, quand on rentre dans une porte, le Seigneur va en ouvrir d'autres portes. C'est la même chose pour vous. Quand vous allez franchir la première porte, d'obéissance. Le premier contact à qui vous allez parler, le Seigneur va vous ouvrir d'autres portes. Ça va devenir de plus en plus facile. Alors, à mon retour et tout ça, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de commencer un ministère. C'est lui qui me l'a donné parce qu'on ne peut pas partir les choses comme ça juste par hasard de même. Donc, le Seigneur m'a vraiment donné un ministère pour l'évangélisation aux nations. Et ce qui va différer, vous allez dire, il y en a plein là, de missionnaires, il y en a plein d'évangélistes. Oui, il y en a, mais il n'y en a pas encore assez parce que le Seigneur dit toujours de prier,
Amen.
Le maître de la moisson, parce qu'il en
c'est
manque
ça.
Encore, parce que la moisson est tellement grande. Et ce que le Seigneur met dans notre cœur vraiment, c'est la francophonie. C'est mm-hmm. ça que c'est notre priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller à d'autres nations, mais notre priorité, c'est la francophonie. Puis la priorité que le Seigneur a mis dans mon cœur aussi, c'est d'aider, d'équiper, d'entraîner des Québécois.
Amen.
À prendre leur place. Il est temps qu'on prenne notre place. Êtes-vous d'accord?
Amen.
Qu'on arrête juste d'être des spectateurs, qu'on regarde la game et qu'on embarque nous-mêmes dedans.
Mm-hmm.
Alors, c'est vraiment ça. Ça va de pair avec la vision de cette église aussi. C'est vraiment d'équiper la francophonie pour apporter la francophonie, apporter des gens comme vous.
Mm-hmm.
Qui est assis ici ce matin qu'un jour on va être en Afrique, on va faire le tour du monde, parce mm-hmm. que c'est vraiment ça qui est dans nos cœurs. Alors vous équipez, vous montrez comment, vous apportez. Le Seigneur m'a entraîné pour que je puisse transmettre les choses que j'ai apprises. Alors le Seigneur est tellement bon, et puis le ministère que le Seigneur nous donne à Donald et moi, c'est Mission Moisson Internationale. Donc c'est vraiment, c'est de toucher la francophonie, c'est de toucher les nations. Et puis... c'est ça, je veux vraiment voir que chacun prenne sa place.
Amen.
Et puis, on a aussi à cœur d'aller dans les églises pour partager ce que le Seigneur nous a donné et de voir que d'autres aussi, d'autres églises s'impliquent et d'autres églises, d'apporter des équipes de partout là, du Québec. Là. On parle de Gaspésie, on parle de la Côte-Nord, on parle de partout. Là. On veut apporter des gens vraiment dans la francophonie. Parce que vous savez qu'un voyage missionnaire, ça change notre vie.
Mm-hmm.
Mais on n'est pas missionnaire parce qu'on a traversé l'Atlantique. Peut-être qu'il mm-hmm. y a des gens ce matin, vous dites, ah ben moi, je ne suis pas rendu là. C'est pas ça qui fait de nous des missionnaires. Un missionnaire, c'est celui qui partage la bonne nouvelle avec son voisin,
Amen.
Sa famille, ses amis, ses collègues de travail. C'est ça, les vrais missionnaires.
Mm-hmm.
Mais après ça, on peut s'impliquer outre mesure. Et il y a le ministère, comme Caroline Sorrentino, qui est d'équipe aussi. Donc, impliquez-vous. Commencez là où le Seigneur vous met à cœur. Mm-hmm. Comme Philippe a commencé dans une nation, puis après ça, dans une ville, puis après le Seigneur lui a ouvert les possibilités d'aller aux nations.
Amen.
Donc, commencez là où vous êtes, avec la foi que vous avez,
Amen.
Priez, comme on a vu tout à l'heure, priez, donnez, puis allez. C'est ça qui est le mandat, vraiment. Puis c'est le mandat de chacun de nous.
Alléluia.
Alors, je vous encourage fortement à prier. On termine le 40 jours, que ce ne soit pas une terminaison, mais que ce soit une continuité.
Amen.
De toutes les choses qu'on a apprises, puis on dit, « Me voici, Seigneur, utilise-moi. » Alors, tout à l'heure, si vous voulez rester quelques minutes pour aller au salon des missions, vous allez voir des choses qu'on a apportées là. Et j'ai des brochures aussi. de mission moisson, si vous voulez en prendre une, et puis prendre reconnaissance du ministère. Que le Seigneur vous bénisse, puis impliquez-vous, ça vaut la peine.
Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jean-Charles, tu peux venir. Vous savez, on a un grand mandat, mais un grand Dieu, n'est-ce pas? Priez, donnez, allez. On va le dire ensemble. Priez, donnez, allez. Et même si vous commencez petit, ne méprisez pas les jours des petits commencements. Commencez, priez quelques minutes par jour pour les missions, pour les missionnaires, pour vos voisins, pour vous-même en tant que témoin. Donnez, faites quelque chose. Vous ne pouvez pas faire peut-être grand-chose, vous pensez, mais faites quelque chose. Faites confiance au Seigneur de pourvoir 25 cents ou 25 $ ou 25 000. Faites en part de la foi. Amen. Au-dessus de votre dîme, et ça va être une bénédiction pour les autres. Allez vous-même. Alléluia. Prenez une décision de qualité. Me voici, Seigneur. Envoie-moi.